Chapitre 16. Chasser croisé sur l'eau. La désillusion des corailleurs fut grande. Avoir rêvé un phoque et mettre la main sur Saint-Égousse, car c'était Saint-Égousse qui, tremblant de peur, mourant de faim et transi de sa nuit passée sur le roc avec un chapeau manille pour tout abri, se mit à leur raconter des aventures invraisemblables. Il raconta que, la veille, vers minuit, au bigarreau de l'Islette, tandis que, profitant du clair de lune, il donnait à la Cassagnone un suprême coup de pinceau, des hommes étaient venus, à pas de loup sur le sable, qui, sans mot dire, l'avaient bâillonné, garrotté, jeté en travers de leur barque, et finalement, déposé sur la fournigue, lui laissant comme provision un paquet de tabac et une pipe. Et comment étaient-ils vêtus ? Ils avaient des bottes, une vareuse jaune et d'immenses chapeaux de paille, armés d'une pointe recourbée en forme de corne de rhinocéros. « Ça devait être des Turcs, » dit l'un des corailleurs. « Il y en a encore, » conclut l'autre. Saint-Égousse ne protesta point et leur laissa croire que c'était des Turcs. Il avait pourtant vaguement reconnu, par un trou du sac qu'il empaquetait, Trébas et Miravaille, les deux pirates compagnons de Fabien. Il avait vaguement entendu, à travers le bâillon qui lui serrait les oreilles, la lecture d'un ordre d'exil sur l'îlot de la Fournigue pour crime de désertion et de lèse-piraterie, ordre signé Brin de Bouleau, reine d'un tas d'îles. Saint-Égousse n'y comprenait rien, mais l'enlèvement, on le devine, était le résultat d'une erreur. C'est le volage Fabien que les deux pirates croyaient ficeler lorsqu'ils ficelaient Saint-Égousse. Faisons remarquer, dans l'intérêt de la vraisemblance, que ceci se passait la nuit, que Saint-Égousse, fortement encapuchonné par crainte du serin, était méconnaissable, et que, voyant un homme sur la grève du Bigorneau peindre la Castagnore à la lumière d'une lanterne, tout le monde eut pris cet homme pour Fabien. Ajoutons, en outre, que Miravaille et Trébasse, étant l'un romancier, l'autre musicien, rien n'empêche de croire qu'ils se fussent préparés à leur haut fait par quelque libation, ainsi qu'ont coutume de le faire, pour toute entreprise importante, les membres de ces deux estimables corporations. Saint-Égousse, préoccupé de l'idée des courses, eût désiré se faire ramener tout droit à Antibes. Mais les corailleurs ne voulurent pas. Cela les détournait trop de leur route, et puis, avoir manqué le phoque, les mettait de mauvaise humeur. D'ailleurs, Saint-Égousse, pris à l'improviste, n'avait pas un rouge liard sur lui. Les corailleurs consentirent pourtant, moyennant l'abandon de la pipe et de ce qui restait de tabac, à déposer le naufragé sur la pointe la plus proche de l'île Saint-Honorat, endroit solitaire, lui aussi, mais ombragé, vaste, et moins exposé que la Fournigue, aux boulets et aux buts américains. Là, Saint-Égousse s'assit sur un éclat de roche, à l'ombre de gigantesques fenouilles, et n'hésita pas à maudire la destinée. Cependant, à quelques cent mètres, mais de l'autre côté de l'île, Trébasse et Miravaille, regrettant leur imprudente plaisanterie, très inquiets du résultat de la canonnade, mettaient à la voile pour la Fournigue, et cela au moment même où Cyprien y abordait. Chapitre 17. Tout s'arrange. Les corailleurs avaient été fort étonnés de trouver sur l'îlot un homme au lieu d'un phoque. Trébasse et Miravaille ne le furent pas moins lorsqu'ils y rencontrèrent, au lieu de Fabien, Mademoiselle Cyprienne Lancelevée, qui, croyant son amant mort, tué par les obus, emporté par la vague, voulait mourir aussi et se lamentait au bord des flots. Les explications ne pouvaient être longues, ni long le séjour sur cet îlot tragique et désolé. Tout espoir de retrouver Fabien n'était pas perdu. Cyprienne, tandis qu'elle ramait vers la Fournigue, avait cru voir une barque montée par trois hommes s'en éloigner, et Trébasse, guidée par son flair de romancier, releva sur le sable, à côté d'une empreinte de bottines, l'empreinte toute fraîche d'une double paire de pieds nus. On amarra donc la petite barque à l'arrière du singe rouge, et Cyprienne en larmes, Trébasse et Miravaille bourrelés de remords, se rembarquèrent silencieusement pour cette île Saint-Honorat où de nouvelles surprises les attendaient. « Fabien ! Fabien ! Là-bas, dans cette crique !» s'écria tout à coup Cyprienne en montrant l'île, puis elle ajouta avec une entière mélancolie. L'ingrat, le perfide, il est déjà aux genoux de mademoiselle Brindeboulot. En effet, au fond d'une crique ensoleillée, dans le cadre en or clair des tamaris et des fenouilles, un homme se détachait à genoux devant une femme. La femme était bien mademoiselle Brindeboulot, mais l'homme, ce n'était pas Fabien. L'homme était Saint-Égousse, et voyez comme les choses s'arrangent. Brindeboulot, princesse des îles, venait de s'apercevoir qu'elle s'ennuyait. Régnier l'avait amusée d'abord, mais ne régner que sur un musicien et un romancier devient à la longue monotone. Et puis, le soir, du haut des rochers, son domaine, Brindeboulot voyait, au debout de l'horizon, étinceler par-dessus la mer les 1000 becs de gaz de Cannes et de Nice. Elle rêvait alors, pauvre petite parisienne exilée, elle rêvait de cafés, de théâtres, de magasins illuminés, de promenades flamboyantes, et cela lui mettait un certain vague à l'âme. Que de fois, sans le mal de mer, elle serait partie. Mais la crainte du mal de mer la retenait. Pourtant, malgré les affirmations du musicien et du romancier, Brindeboulot ne concevait guère qu'une île ne touchât pas par un bout, si petit qu'il fût, à la terre ferme. Trébasse et Miravaille comptaient des farces. On devait toujours pouvoir s'en aller d'une île à pied sec. Possédé de son idée fixe, Brindeboulot, ce matin-là précisément, était sorti seul de très bonne heure pour mettre à exécution un projet qu'elle avait combiné pendant la nuit. Projet simple et qui consistait en ceci. Faire à pied le tour de l'île, tandis que le romancier et le musicien seraient en mer, trouver le passage, et le passage une fois trouvé, rappeler Fabien de son lieu d'exil, lui pardonner et partir avec lui pour un endroit où l'on s'amuse. Toute réjouie de cet espoir, Brindeboulot s'en allait, en grand costume comme toujours, ses cheveux blonds à l'air et l'ourlet de sa robe traînant le long des grèves, quand tout à coup, en tournant de la pointe où les corailleurs avaient débarqué, elle aperçut Saint-Égousse dans sa pose désespérée. « Un homme » s'écria-t-elle toute surprise. « Une cocotte !» soupira Saint-Égousse, délicieusement ému. Car Saint-Égousse avait vu souvent, sur la route qui va de Cannes à Nice, rouler dans les petits paniers surmontés d'un parasol à franges qui sont les fiacres de là-bas, des demoiselles en tout point pareilles à Brindeboulot, et leurs mignonnes tournures, leurs petites têtes frisées, tenaient dans ses rêves plus de place qu'il n'aurait convenu. En rencontrer une dans ce lieu désert, pouvoir lui parler, la voir sourire, juger de la joie et de l'enivrement. Surexcité par les émotions de la nuit, énervé par le jeûne, grisé de l'odeur pénétrante des grands fenouilles qu'agitait la brise marine, Saint-Égousse oublia d'un coup Antibes et les courses, la Cassagnore et Mademoiselle Cyprienne, Saint-Égousse aima Brindeboulot tout de suite. Brindeboulot, de son côté, se sentit touché par les grandes manières de Saint-Égousse, et quand le singe rouge aborda, les deux pirates et Cyprienne stupéfaits purent entendre cet homme grave qui, les genoux dans le sable humide, promettait à Brindeboulot de la conduire à terre sans mal de mer, et lui offrait, en échange d'un peu d'amour, son cœur, sa main, ses 110 orangers et le petit pavillon de la Badine. Chapitre 18. Décidément, la Méditerranée est bleue. Cependant, de l'autre côté du cap, l'heure des courses approchant, les Antibois sortaient de leurs remparts et arrivaient par groupes à l'îlette, désireux de voir le départ des coureurs, mais surtout impatients d'assister au lancement solennel de la Cassagnore et d'admirer les manœuvres savantes des 6 capitaines qui la monteraient. Bourgeois et patrons de barque, dames de la ville en toilette paysanne, paraissant plus brunes sous le blanc éclatant de leurs chapeaux niçois, tout Antibes se pressait autour du petit port. Le soleil, un soleil superbe, promenait capricieusement ses rayons du bonnet flottant des artisanes au plastron écarlate des servantes brigasques. Quelle joie, coquin de sort, et quelle foule! Tant de monde surchargeait l'îlette que l'îlette, si elle eût été un bateau, aurait coulé à fond ce jour-là. Pas un nuage au ciel et juste ce qu'il fallait de brise. Les pavillons luisaient, les voiles frissonnaient par toute la baie. Et le tambour de la ville battait l'appel des courses dans le bateau de la Prudhomie. Les voiliers couraient de ça, de là, essayant d'éborder. Les rameurs s'exerçaient aussi, biceps tendus et nus jusqu'aux hanches, dans leurs barques sans gouvernail. Car le gouvernail n'est pas admis et l'on doit se diriger à la rame. À l'arrière du bateau et regardant les rameurs en face, demi-nus comme les autres, un homme est assis. Des bras et du corps, il bat la mesure pour que les rames tombent d'accord. Il interpelle les rameurs, les encourage, les inspire. « Zou, José ! Zou, Marius ! Hardi, les enfants !» Et si l'haleine manque, si les poignets mollissent, si le courage vient à faillir, l'homme, sans quitter les rameurs des yeux, sans cesser de marquer la mesure avec la tête et le buste, inonde d'eau de mer, à pleine épuisette, leur tête frisée et leur dos. Tandis qu'au dehors tout était en joie, tout, à l'intérieur du bigorneau, était tristesse et désespoir. Saint-Égousse disparut, Cyprienne partit. Comment s'embarquer, comment mettre à l'eau la Castagnore ? Escragnol, Arluc, Barbe et Varangode, désespérés eux-mêmes, essayaient en vain de trouver quelque consolation pour l'infortuné Lancelevé, également accablé et comme père et comme marin. « Capitaine, voyons, capitaine !» Ah, mes amis, mes chers amis, ne m'appelez plus capitaine, vous pouvez m'appeler colonel à présent. Fabien feignait une tristesse hypocrite. Que Saint-Égousse, comme le bruit s'en répandait dans Antibes, eût été enlevé la nuit par de certains babaresques, sur une felouque, la chose ne pouvait lui déplaire. Et pour ce qui était de Cyprienne, de son inexplicable disparition, il s'en remettait volontiers à la Providence. Cyprienne ne pouvait être loin, puisque le matin même, Varangode l'avait vue. Plus tard, on retrouverait Cyprienne. L'important était, pour le quart d'heure, que la Castagnore ne partît pas. « La Castagnore partira, elle partira quand même !» s'écria soudain Lancevelé. « Saint-Égousse prisonnier, ma fille disparue, il y a là un cas de force majeure que les règlements n'ont pu prévoir. » « À bas les règlements !» répondirent en chœur Escragnol, Varangode, Arluc et Barbe. Mais Fabien, lui, ne parla pas, Fabien se vit perdu, Fabien devina ce qu'allait proposer Lancelevé. « Le rhumatisme m'a roidi, je ne compte plus. Mais vous voilà cinq. Varangode, qui a l'œil bon, prendra la barre. On supprimera deux avirons. Huit bras comme les vôtres en valent 12. Vos huit bras et les deux yeux de Varangode doivent, aujourd'hui, sauver l'honneur de la Castagnore. Vive la Castagnore ! Crièrent les cinq capitaines, moins Fabien, en se présentant sur la terrasse du Bigorneau. Vive la Castagnore ! Répondit la foule lorsqu'elle aperçut les capitaines, radieux dans l'ombre dorée que projetait la courge en fleurs. Escragnol et Varangode enlevèrent la toile goudronnée qui cachait la Castagnore au regard du soleil antibois, et sa coque apparut, luisante et peinte comme le petit poisson bigarré qui porte le nom de Castagnore. Arluc et Barbe, réconciliés, se mirent tous deux au cabestan. Le capitaine Lancelevé, brandissant sa béquille ainsi qu'un sabre, écarta la foule du plan incliné garni de rails en bois sur lequel allait glisser la Castagnore avant de plonger son avant dans les flots éclaboussés. On se montrait les capitaines. C'est Arluc, Barbe, Varangode, c'est Escragnol, c'est Lancelevé. Il manque Saint-Égousse, on ne voit pas Mademoiselle Cyprienne. Et les femmes disaient, en regardant Fabien, « En voilà un qui doit bien ramer. Il a navigué partout, il paraît que c'est un pirate. » Le pirate était triste et regardait les rames avec quelque mélancolie. « Au cabestan, tonnerre !» s'écria Lancelevé. Les poulies grincèrent, les cordes se tendirent, et la Castagnore cria. « Hardi, capitaine, encore un tour !» Encore un tour, cran, cran. Le canot oscilla sur sa quille, la foule fit silence, Fabien, se sentant mourir, ferma les yeux. Soudain, un horrible craquement, puis des jurons, et un immense cri poussé par la foule. Immobile depuis 2 ans, sur le calcaire aigu de l'îlette brûlée du soleil, battue du mistral, ruinée par les alternatives de la chaleur et de la gelée, la Castagnore, sous une secousse trop brusque imprimée au cabestan par l'irascible Barbe et le fougueux Arluc, la Castagnore venait de tomber en miettes. L'heure sonnait. Le tambour de ville battait toujours, rentemplant, sur le bateau de la Prudhomie. Mais de l'événement, les courses se trouvèrent retardées et le coup de fusil, signal attendu, ne partit point. « Sauvé !» pensait Fabien. Sa joie fut de courte durée. Au même moment, un son de trompe retentissait en guise de salut et, gracieusement incliné sous sa voile latine, un petit yacht que nous connaissons, rompant la ligne des bateaux rangés déjà, venait jeter l'ancre devant le musoir du Bigorneau. « Les pirates !» cria la foule. Le singe rouge, soupira Fabien, et voyant à l'arrière une silhouette de femme, le peintre ajouta « Tout est perdu encore, les gredins me ramènent Brin de Bouleau. » Mais ce n'était pas Brin de Bouleau que Trébasse et Miravaille ramenaient. Brin de Bouleau, dans la petite crique toute frissonnante de tamaris et tout embaumée de fenouil, Brin de Bouleau avait causé avec Cyprienne et Cyprienne l'avait trouvée charmante. Brin de Bouleau avait dit à Cyprienne « Mariez-vous avec Fabien, ça m'est égal si je dois garder Saint-Égousse. » Puis elle avait ajouté « Les demoiselles comme vous, mademoiselle, en veulent à celles comme moi. On pourrait pourtant s'arranger. Vous aimeriez les gens d'esprit et nous laisseriez les imbéciles. » Brave Brin de Bouleau. À ce moment, évadée de Saint-Honorat, elle posait son petit talon nu sur le sable de la croisette, Saint-Égousse, aussi ingénieux que Volage, lui ayant trouvé un moyen de quitter l'île, sinon à pied, du moins sans mal de mer. Brin de Bouleau avait revêtu un caleçon, Saint-Égousse était embarqué sur le bateau ravi par Cyprienne, et, lui ramant, Brin de Bouleau remorqué, et, pareil à Vénus dans le remous blanc laissé par la barque, tout devenait d'arriver à Cannes, terre civilisée où les cafés ne manquent pas. Trébasse, du haut du singe rouge, voulait raconter tout cela. « Chut !» dit Fabien, « je me marie !» Puis, sans attendre les explications qu'il craignait, il baisa la main que mademoiselle Cyprienne lui tendait par-dessus le bordage. « Capitaine, la Cassagnore est morte, mais le singe rouge nous offre son bord. Aujourd'hui, le cercle nautique ira à la voile. » On s'embarqua. « Pauvre Cassagnore !» soupirait Lancelevé en regardant les débris noirs qui jonchaient l'îlette. « Bah, nous avons de nouvelles courses dans 2 mois. La Cassagnore, dans 2 mois, sera réparée. » À ces mots, Fabien pâlit. Mais Cyprienne, se penchant à son bras, « Nous serons mariés d'ici là, Fabien. Nous irons à Paris. Paris n'est pas loin de Chennevière. Et là, monsieur le paresseux, on vous apprendra à ramer. » Un coup de fusil, les bateaux s'ébranlent. « Regarde, Fabien, la mer est bleue !» criaient Trébasse et Miravaille. La mer, en effet, était bleue ce jour-là, bleue d'un bleu intense, bleue à ce point sous le ciel bleu, qu'il aurait suffi au peintre de tremper son pinceau dans l'eau pour trouver le ton exact du ciel. Mais tout l'azur de la Méditerranée ne valait pas pour lui, à ce moment, le bleu charmant et malicieux qui riait dans les yeux de mademoiselle Cyprienne Lancelevé.